l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebey.
C'est la suite d'appels sur l'actualité sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de notre débat ce matin sur les liens qui unissent ou doivent unir religion et politique. Ce week-end, le parti tunisien Ennahda, réuni en congrès, a voté la séparation de ses activités politiques et de ses activités religieuses. La première force du Parlement tunisien n'est donc plus un parti islamiste, Rached Ranouchi. Son leader explique ce virage ainsi. L'islam politique n'a plus sa place dans le pays et le concept a été trop égratigné par l'expansion de l'extrémisme religieux. Alors comprenez-vous ce choix ? Suit-il l'évolution naturelle de la société tunisienne ? Et chez vous, existe-t-il des partis religieux ? Et quels liens unissent politique et religion dans votre pays ? Pour participer, vous nous avez appelé au 33 9 693 693 70 ou bien vous nous avez laissé vos messages sur Facebook et Twitter. J'en cite quelques-uns. Sidi Koundara qui nous dit « Je pense que c'est une bonne décision car cela évitera de salir l'islam à travers des actes de politique politicienne. Ou encore Idriss qui dit « La souffrance de l'islam politique vient souvent de l'Occident qui stigmatise l'islam et qui laisse penser que la religion est en désaccord avec la politique. » Ou encore Alpha, toujours sur Facebook, qui nous dit « Tant que le terrorisme se propagera, c'est logique qu'il y ait une démarcation entre l'islam et la politique. C'est ce qu'auraient dû faire les frères musulmans en Égypte lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. » Notre premier auditeur pour ce débat sur les liens entre religion et politique, c'est Fatih qui est à Amsterdam. Bonjour Fatih.
Oui, bonjour.
Vous êtes tunisien, donc je suppose que vous avez suivi de près le congrès donc d'Ennahda. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que Rached Ranouchi donc annonçait la séparation entre politique et religion au sein du parti ?
Quand même, j'ai été étonné. Il y avait déjà des signes qui laissaient prévoir que ça allait se passer, mais quand même, au moment où ça s'est passé, je dois dire que c'était quand même un peu une surprise. Mais en ce qui concerne la décision, si ça veut dire que Ghanouchi a compris que la Tunisie, pour avancer, a besoin d'un État démocratique moderne, c'est une bonne décision. Seulement, je ne pense pas du tout que Ghanouchi soit un partisan de la démocratie, de la façon dont il s'est comporté après les dernières élections qu'il a perdues. Et il s'est, au lieu de prendre le point de l'opposition, il s'est rallié au parti qui est au pouvoir.
Nida Tounes.
Et étant donné le Nida, étant donné que les deux partis maintenant font un poids qui est inébranlable, toute opposition maintenant a disparu dans le Parlement.
Alors qu'est-ce que je dois comprendre, Fatih, que finalement Ennahda a abandonné donc son côté religieux pour se rapprocher du parti au pouvoir ?
Oui, la raison d'abandonner le côté religieux, il me semble, c'est une compromission pour s'élargir davantage et attirer d'autres adhérents. Et c'est un peu une préparation à s'installer au pouvoir. Quand même, pour s'installer au pouvoir, il faut des compromissions. Et ça, c'est une compromission importante qui a été faite par Ennahda.
Alors, il y a bientôt des élections locales. Et on peut imaginer que si un parti prend une décision aussi radicale, c'est pour élargir son assiette d'électeurs. Alors, est-ce que ça correspond à une évolution de la Tunisie, le fait de séparer religion et politique ?
Vous savez, j'aurais bien voulu vous répondre, mais en Tunisie, il y a quand même... la Tunisie est scindée entre la grande capitale, avec sa bourgeoisie plutôt ouverte vers un style de vie occidental, et l'intérieur du pays. Trois quarts de la Tunisie vivent justement dans un état de misère, abandonné. Et là, le poids de la religion compte beaucoup.
Ouais.
Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais personnellement, je pense que la conduite du parti Ennahda est principalement de Ghannouchi, avec son alliance avec le parti au pouvoir, est une mauvaise façon de servir la démocratie.
En tout cas, c'est la façon dont lui, donc le leader d'Ennahda, explique ce virage, c'est aussi par la constitution 2014 qui dit que l'islam est la religion de la Tunisie. Donc en gros, il n'y a plus vraiment besoin d'islam politique pour défendre la religion. On comprend que l'islam est toujours au cœur de sa politique. Fatih, on a bien compris que pour vous, c'était avant tout un acte politique. On va accueillir maintenant Abdelkader qui nous appelle de Bamako, Mali. Bonjour Abdelkader.
Oui, bonjour.
Que pensez-vous alors de cette décision d'Ennahda? C'est un sacré virage pour un parti qui existe depuis plus de 30 ans.
Oui, en fait, c'est une décision courageuse, c'est une décision salutaire et c'est une décision dont beaucoup de pays doivent s'en inspirer. Parce que si je prends le cas du Mali particulièrement, nos chefs religieux, aujourd'hui, nous les considérons comme des modèles. Et il est important que ces chefs religieux continuent à jouer le rôle de personnes ressources qui apportent la paix, la quiétude et la transparence dans les activités quotidiennes de tous les jours. Donc aujourd'hui, voir que des chefs religieux s'adonnent à la politique, alors que nous savions que c'est un milieu qui n'est pas du tout sain, c'est un milieu où, quand tu es dedans pendant des décennies, tu ne peux pas dire que tu as une expérience avérée ou que tu es incontournable. Donc c'est un milieu où voir des gens qui prêchent la parole de Dieu se mêler dedans, ce n'est pas une bonne chose.
C'est-à-dire que pour vous, finalement, vous souhaiteriez qu'il y ait deux voies possibles, une voie politique et une voie religieuse, qu'elles ne soient pas mêlées pour avoir deux aspects différents, deux points de vue sur la société?
Oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas du tout, ils ont les mêmes objets, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent sur la même société, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs visés.
Et vous craignez justement alors une manipulation, soit de la politique par la religion, soit de la religion par la politique, si tout ça est mêlé?
Mais à coup sûr, quand les deux sont mêlés, c'est une manipulation des deux. Parce que je prends le cas du Mali où dans les élections présidentielles passées, les religieux ont demandé de voter pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat que cela a donné. D'ailleurs, je m'en réjouis parce que j'ai appris un leader religieux dire qu'il souhaiterait qu'on sépare les deux. Donc ça, on commence déjà à comprendre. Mais la conséquence, elle est d'autant plus grave qu'on ne pourra plus faire confiance à ces personnes religieuses-là qui prêchent la parole de Dieu et qui fait d'ailleurs qu'on les fait confiance.
Oui. Vous réclamez une certaine neutralité des responsables religieux pour qu'on puisse faire confiance à leurs paroles sans avoir l'impression qu'il y a, un autre agenda, d'autres objectifs en tête et derrière leurs propos. Merci Abdelkader de nous avoir donné votre point de vue donc de Bamako au Mali. On va aller en Mauritanie pour accueillir Mokhtar qui nous appelle de Rosso. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Marie, bonjour.
Votre regard Mokhtar, alors d'abord sur le choix d'Ennahda en Tunisie.
Je pense que Ennahda veut faire une différence entre la religion et la politique. Je dirais que la religion même, elle est plus ou moins politisée parce que prône la religion? Elle prône l'égalité, la justice, l'équité entre les gens. Si aujourd'hui il y a un extrémisme, si vous voulez, il faut voir les causes de cet extrémisme. L'extrémisme, pour moi, est soit un régime par la société. Et ces gens qui sont extrémistes aujourd'hui se sentent donc fustigés, se sentent vraiment rejetés par la société parce qu'il n'y a pas une véritable justice, il n'y a pas une véritable équité. Et c'est ce qui fait que les gens partent dans le fanatisme.
Oui.
Je pense que la religion et la politique, certes, c'est bien beau de les différencier, mais également, je peux dire que dans la religion également, il y a la politique.
Et quand vous entendez Abdelkader à Bamako dire qu'il craint une manipulation de l'un de l'autre, de la parole politique ou de la parole religieuse, qu'est-ce que vous constatez en Mauritanie? Est-ce que ce n'est pas une crainte que vous avez aussi? Vous ne la partagez pas?
En Mauritanie, je pense qu'en Mauritanie, les Tunisiens ne sont pas plus musulmans que les Mauritaniens. Non plus aussi au Sénégal, non plus dans la sous-région. Je dirais tout simplement que cela peut bien partir dans les mêmes, si vous voulez, parallèlement, mais il faut tout simplement respecter ce que l'on dit, que ça, mais un religieux ne doit pas mentir. On peut faire la politique sans autant promettre terre et ciel et ne pas vraiment savoir. Moi, je dirais plutôt que c'est
alors,
bien beau.
Je voudrais juste, si vous voulez bien, Mokhtar, vous citer Rachid Ranouchi qui explique donc son choix de séparer politique et religion. Il dit un parti doit parler des problèmes quotidiens, de la vie, des familles, des personnes, et non pas du jugement dernier, du paradis, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, moi, je dirais tout simplement que ça, c'est une manière, bien sûr, à faire plaire peut-être à la communauté internationale. C'est un moyen de faire plaire à la communauté internationale. Nous savons aujourd'hui que la Tunisie, quand même, traverse une situation un peu critique, sinon même critique, et donc pour aller vers, pour un peu promouvoir, bien sûr, sa politique, et de pouvoir faire plaire. À une communauté internationale.
Vous êtes plusieurs, effectivement, à souligner sur les réseaux sociaux peut-être une influence de l'Occident et que la Tunisie chercherait à tout faire pour rassurer l'étranger et que l'islam politique est peut-être quelque chose qui est mal compris en Occident. Merci Mokhtar. Je voudrais maintenant qu'on traverse le continent pour aller à Kinshasa et accueillir Willy. Bonjour Willy.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Willy, sur cette décision, donc Ennahda, en Tunisie, de séparer politique et religion?
Oui, c'est une décision que nous avons bien accueillie, nous la soutenons, mais néanmoins, nous voulons qu'il y ait une démarcation nette entre l'activité politique et l'activité religieuse. De sorte que il faut qu'on ouvre des portes même aux laïcs à accéder à la direction de ces partis. À ce moment, ça nous démontrera qu'il y a démarcation. Parce que nous ne pouvons pas interdire aux religieux d'intervenir dans l'activité politique, parce que je peux prendre le cas de la République démocratique du Congo, mon pays, où à un moment donné de l'histoire, on a recouru aux serviteurs de Dieu en tant que société, membre de la société civile, pour venir épauler les hommes politiques.
Alors nous là, vous parlez de quoi? D'un conseil ou vraiment d'une intégration dans un parti? Parce que Rachid Ranouchi dit qu'à terme, en fait, il souhaiterait qu'un imam ne puisse pas avoir un rôle dans un parti ou en politique. Là, vous parlez d'une influence ou vraiment d'un acteur politique qui est également religieux?
Exactement. C'est-à-dire que l'imam ne peut pas être à la direction d'un parti politique parce que lui-même, sa personnalité incarne la vie religieuse directement. Mais si on va faire recours à l'imam comme étant une personnalité de la société civile pour régler une situation politique du pays, je soutiendrai.
D'accord.
Parce que dans le Congo, mon pays, je peux vous donner l'exemple, à l'époque de la Conférence nationale souveraine, on a fait recours à l'actuel cardinal Monsengo pour diriger la Conférence nationale souveraine. Parce qu'on a pensé à son impartialité. Et à un moment donné, vous avez entendu, on a fait recours à l'abbé Malumalu, au pasteur Ngoï Mulunda pour la CI et la CENI. Mais quand cela ne tienne, leur moralité et tout ne nous engage pas, mais ce qui nous intéresse est que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu peuvent intervenir dans la vie politique comme membres de la société civile, mais non comme parti politique.
Parce qu'à ce moment-là, vous soulignez, Willy, leur impartialité de ces religieux parce que justement, ils ne sont pas impliqués avant cela dans la vie politique.
Exactement. Exactement, parce que s'ils sont déjà impliqués dans la vie politique, ils auront un penchant et personne ne pourra recourir à eux, parce que quand vous allez vous rendre compte dans un parti politique à caractère religieux, vous trouverez les gens qui ne sont pas d'accord avec cette idéologie donnée.
Garder une certaine séparation pour conserver une certaine impartialité de la part du monde religieux. Merci beaucoup, Willy, pour votre éclairage donc à Kinshasa, en RDC. On va accueillir maintenant Rama qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Bonjour, Rama.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors vous, qu'est-ce que vous pensez donc d'une séparation aussi nette que celle souhaitée par Ennahda en Tunisie?
En fait, moi je pense que la séparation entre le politique et le religieux, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ça donne de la crédibilité à l'action politique, parce que désormais, si cette séparation est nette, ça permettra aux électeurs, en tout cas aux citoyens, de s'engager dans un parti politique. En ne mettant pas la foi religieuse. Parce que la foi religieuse, c'est profonde à la personne. Donc, désormais, les gens pourront en tout cas adhérer à un parti politique en mettant en avant leurs propres intérêts, en portant leur voix sur les candidats, en tout cas, qui sont en mesure de satisfaire, d'améliorer leur quotidien.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, au Sénégal, alors, ce lien entre religion et politique, quel est-il?
Au Sénégal, la pratique de l'islam, elle est un peu particulière parce que l'islam sénégalais est un islam confrérie. Donc ici, on a des confréries. C'est vrai, il y a une séparation, mais les confréries interviennent dans l'action politique, non pas pour influencer de façon négative, mais ces confréries interviennent dans l'action politique pour stabiliser, pour modérer. Parce que toutes les fois où il y a des tensions quelque part, ces familles religieuses interviennent pour appeler à la tolérance.
C'est une voix impartiale, comme l'évoquait Willy à Kinshasa. Vous parleriez d'une voix impartiale?
D'une voix impartiale, peut-être pas une voix impartiale de façon très nette, mais ce qu'il faut souligner en tout cas, c'est que la séparation, en tout cas de plus en plus, en tout cas les Sénégalais, ils séparent en tout cas l'action politique de l'action religieuse. Et je ne pense pas aujourd'hui, en 2016, qu'un parti politique en tout cas voudra aller chez ces conseillers-là pour chercher les consignes de vote.
Oui.
Ça s'est vu par exemple lors du référendum passé, le chef de l'État il a eu à sionner ses confréries, ses familles religieuses, non pas je crois pour chercher des consignes de vote, mais c'était dans un souci pédagogique parce qu'il y a eu des informations, des fausses informations qui ont été véhiculées.
Ça veut dire quand même, Rama, vous le dites, hein, donc le président Macky Sall qui va rassurer les responsables religieux pour leur expliquer un petit peu comment interpréter ou ne pas interpréter un texte donc pour un référendum constitutionnel, ça veut dire quand même que c'est important d'y impliquer les personnalités religieuses du pays.
Oui, mais parce que les personnalités religieuses sont influentes au Sénégal. Sont influentes, je vous l'ai dit, non pas de façon négative, mais sont influentes de façon positive. Donc, il fallait les rassurer parce qu'il y a eu des idées fausses qui ont été véhiculées, comme quoi dans la nouvelle constitution, il y avait des articles qui cherchaient à promouvoir l'homosexualité. Donc, il fallait que le président de la République aille vers ces familles religieuses qui sont très influentes positivement, pour leur expliquer que, écoutez, c'est une idée qui n'est pas juridique, c'est une idée fausse. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le chef de l'État est allé vers ses familles religieuses, mais non pas pour chercher des consignes de vote. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'un parti politique peut s'aventurer à aller chercher des consignes de vote, parce que les Sénégalais aujourd'hui ne suivent plus, à mon avis en tout cas, ces consignes de vote.
À votre avis, donc, au Sénégal, on n'écoute plus, hein, c'est plus la voie à suivre. On va voir si c'est la même chose en Mauritanie avec Ahmed. Bonjour Ahmed, vous nous appelez de Nouakchott.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Dites-moi Ahmed, est-ce que en Mauritanie, les religieux donnent des consignes de vote? Rama à Dakar avait l'air de dire qu'au Sénégal, elles ne seraient pas suivies si c'était le cas.
Oui, c'est pratiquement la même chose en Mauritanie qu'au Sénégal, dans ce sens où en Mauritanie, la religion apparaît comme l'élément fondateur et le ciment de l'identité nationale. L'État, par la reconnaissance des dispositions inspirées de la loi coranique, se pose en relais de cette société traditionnelle fondée sur un vieil héritage de cohabitation et de passage ethnique et d'échanges économiques qui régissent les rapports humains. Il y a de fait une intrication constante du religieux et du politique dans le contrat des pratiques sociales.
Oui, c'est quelque chose en tout cas qui n'a pas l'air de vous déranger, au contraire, Ahmed. Hein.
Moi, ça ne me dérange pas, et ça me dérange, puisque si vous voulez, on ne peut pas séparer, à mon avis, la religion du politique.
Ce sera la phrase qui conclura notre débat, Ahmed. On ne peut pas séparer, donc, selon vous, religion et politique. Demain, on parlera de toute autre chose, des classes moyennes en Afrique. Quelles sont les raisons, selon vous, de ce développement, de cette tranche entre pauvres et riches? Qu'est-ce que vous constatez dans votre pays?